Alors cette semaine, il m'est arrivé un petit accident, c'est que en voulant mettre ma lentille un matin, je me suis blessé l'œil. Et donc pendant 2 jours, j'ai pas pu trop ouvrir l'œil. Maintenant, ça va un peu mieux, mais je n'ai pas récupéré suffisamment de l'œil pour pouvoir remettre la lentille et avoir un confort visuel optimal. C'est pour ça que ce matin, nous allons vous proposer avec Nathalie une prédication à deux voix. Et avant de commencer, je vous propose de prier. Seigneur, nous te remercions pour la grâce que tu nous fais encore de pouvoir nous retrouver tous ensemble ce matin dans la liberté et dans la paix. Nous te remercions pour tous ces jeunes et ces enfants qui ont déjà participé ce matin au culte et qui nous ont entraînés dans la louange. Et nous te prions pour que tu les bénisses encore dans leurs activités de ce matin. Nous te prions que tu les fasse grandir dans ta connaissance et dans la foi, afin qu'ils deviennent la génération montante qui nous succédera et qui aidera l'Église à être visible au monde. Maintenant, nous voulons nous tourner d'une nouvelle manière auprès de toi ce matin, à l'écoute de ta parole. Nous voulons mettre de côté tout ce qui peut nous perturber pour pouvoir être attentif à ce que tu veux encore nous dire ce matin, et nous te prions que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors cette semaine, nous entamons la deuxième semaine de la campagne de rentrée de l'Union des Églises libres de France, et comme nos communautés sœurs, eh bien, nous suivons les mêmes textes et les mêmes méditations jour après jour. Et le texte d'aujourd'hui se trouve dans le 9e chapitre de l'Épître aux Romains. Alors, les versets qui nous étaient proposés étaient des versets 14 à 23. Mais en préparant cette prédication, cette méditation, on s'aperçoit en fait que ces versets apparaissent comme ça d'un coup, dans un discours de Paul qu'il commence à partir du verset 1. Et donc c'est à partir du verset 1 que je vous propose de faire notre lecture de ce chapitre.
En accord avec l'Esprit Saint, me rend ce témoignage. J'éprouve une profonde tristesse et un chagrin continuel dans mon cœur. Oui, je demanderai à Dieu d'être maudit et séparé de Christ pour mes frères, nés du même peuple que moi. Ce sont les Israélites. C'est à eux qu'appartiennent la condition de fils adoptif de Dieu, la manifestation glorieuse de la présence divine, les alliances, le don de la loi, le culte et les promesses, à eux les patriarches. Et c'est d'eux qu'est issu Christ dans son humanité. Il est aussi au-dessus de tout. Dieu bénit pour toujours. Amen. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit restée sans effet. Ce ne sont pas, excusez-moi, tous ceux qui descendent du patriarche Israël qui constituent Israël, et ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas tous ses enfants. Car Dieu dit à Abraham, c'est par Isaac que tu seras suscité une descendance, que te sera suscitée une descendance. Cela veut dire que tous les enfants de la descendance naturelle d'Abraham ne sont pas enfants de Dieu. Seuls les enfants nés selon la promesse sont considérés comme sa descendance. Car telle est la promesse de Dieu vers cette époque. Je viendrai et Sarah aura un fils. Et ce n'est pas tout. Rebecca eut des jumeaux, nés d'un seul et même père de notre ancêtre Isaac. Or, Dieu a un plan qui s'accomplit selon son libre choix et qui dépend non des actions des hommes, mais uniquement de la volonté de celui qui appelle. Et pour que ce plan demeure, c'est avant même la naissance de ses enfants et par conséquent avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal que Dieu dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au cadet. Celui-ci s'accorde avec cet autre texte de l'Écriture, j'ai aimé Jacob et j'ai écarté Isaü. Mais alors que dire? Dieu serait-il injuste? Loin de là. Car il dit à Moïse, « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. Dans l'Écriture, Dieu dit au Pharaon, « Voilà pourquoi je t'ai fait parvenir où tu es, pour montrer en toi ma puissance et pour que ma renommée se répande par toute la terre. » Ainsi donc, Dieu fait grâce à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu vas me dire, pourquoi alors fait-il encore des reproches? Car qui a jamais pu résister à sa volonté? Mais qui es-tu donc, toi? Un homme pour critiquer Dieu? L'ouvrage demanderait-il à l'ouvrier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas le droit à partir du même bloc d'argile, de fabriquer un pot d'usage noble et un autre pour l'usage courant? Et qu'as-tu à redire si Dieu, parce qu'il voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une immense patience ceux qui étaient les objets de sa colère? Tout prêt pour la destruction? Oui, qu'as-tu à redire si Dieu agit ainsi pour manifester la richesse de sa gloire en faveur de ceux qui sont les objets de sa compassion, ceux qu'il a préparés d'avance pour la gloire.
Paul écrit sa lettre aux Romains 25 ans après la crucifixion du Christ. Il se trouve alors à Corinthe et à ce moment-là, il apprend que Phébé, qui est diaconesse à Sancré, qui est dans le port de la vigne, doit se rendre à Rome et il va lui faire, comme c'est l'usage à l'époque, une lettre de recommandation. Mais Paul ne va pas se contenter de faire une simple lettre de recommandation à Phébé, il va aussi utiliser cette lettre pour différentes raisons écrire à la communauté de Rome. Une des raisons pour lesquelles il écrit à cette communauté, c'est qu'il veut les avertir, qu'il espère aller les voir bientôt, avant d'aller plus loin en Espagne. La deuxième raison, c'est que Paul, même à Rome, est contesté dans son ministère. Il y a des personnes qui le contestent régulièrement et il va transformer cette simple lettre de recommandation un traité de théologie systématique le plus abouti que nous pouvons connaître dans la Bible et il va ainsi espérer démontrer la légitimité de son ministère par l'intermédiaire de cette épître. Et puis, enfin, il y a à Rome aussi, comme dans beaucoup d'autres communautés, eh bien, des juifs et des païens qui cohabitent ensemble, des personnes de cultures d'origine différentes et qui ont une conception de la vie chrétienne bien différente. Et Paul se saisit ainsi de cette occasion pour mettre au clair la situation du christianisme par rapport au judaïsme. Alors voilà comment se déroule rapidement les 8 chapitres précédents. Ça va nous aider à comprendre le contexte. Des chapitres 1 à 3, nous voyons que nous sentons tous que nous avons le besoin d'être justes devant Dieu. Dieu parle aux païens par la nature et leur conscience. Il parle aux juifs par sa parole. Personne n'est juste devant Dieu. Et en cela, personne ne peut trouver d'excuses, peut se sauver lui-même, ou encore juger les autres ou se vanter par rapport aux autres. Des chapitres 3 à 5, Dieu a tout accompli. Jésus a effacé notre dette par sa mort. Il est mort à notre place, alors que nous étions encore pécheurs et que le salaire du péché, c'était la mort éternelle qui nous attendait. Nous pouvons être maintenant acquittés, nous déclare Paul dans cette épître. Et Abraham a pris Dieu au mot par la foi et nous sommes appelés à faire de même, à prendre Dieu au mot par la foi quant au sacrifice du Christ qui nous permet de rentrer désormais par la résurrection aussi dans une vie nouvelle. Et autant ce que Adam a fait affecte encore notre quotidien aujourd'hui, ce que le Christ a fait à la croix également nous affecte encore dans notre vie et jusque dans notre vie éternelle. Et puis, des chapitres 6 à 8, Eh bien, il est décrit que l'œuvre du Christ à la croix, nous sommes appelés à la saisir par la foi et qu'elle nous libère de la mort, du péché et de la loi. Nous avons les moyens désormais de vivre autrement. D'un côté, il y a la nature pécheresse qui ne peut pas être bonne, plaire à Dieu et qui est ennemie de Dieu. De l'autre, il y a la puissance qui vient du Saint-Esprit, qui vit en nous. Il y a ainsi un conflit entre la chair et l'Esprit. Il nous faut coopérer désormais avec le Saint-Esprit en rejetant le péché et en obéissant au Christ. Nous pouvons avoir la victoire, nous pouvons avoir la vie éternelle et être enfants de Dieu. Nous pouvons bénéficier de son aide et nous pouvons être rendus semblables au Christ et avoir la certitude que nous lui appartenons.
Nous connaissons très probablement les derniers versets de Romains 8 qui proclament que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Il n'y a rien à ajouter. On s'attend maintenant à ce que Paul enchaîne sur ce comment vivre cette nouvelle vie et cette nouvelle identité que nous avons en Christ. Il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions du Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce verset ne se trouve pas en Romains 9.1, mais en Romains 12.1. À partir du chapitre 9 s'ouvre comme une parenthèse dans le traité de Paul consacré aux Juifs.
Dans les chapitres précédents, Paul a évoqué l'homme avec un grand H, qu'il soit juif ou non juif. Il a évoqué sa mort éternelle et universelle, mais aussi son salut universel grâce à l'œuvre du Christ. Mais alors que la bonne nouvelle se répand comme une traînée de poudre chez les païens, elle rencontre de grandes résistances chez les juifs. Et Paul, qui est juif et le revendique haut et fort, est profondément attristé de voir son peuple rejeter le salut offert en Jésus-Christ. Lui, Paul, il sait. Il était lui aussi un juif, zélé et persécuteur de l'Église naissante en plus. Mais sa rencontre avec le Christ a tout changé. Et il est désormais un homme nouveau. Et il aimerait que ses frères juifs découvrent le même bonheur de vivre que lui. Paul n'oublie pas que Israël occupe dans le plan de Dieu une place particulière que jamais les païens, même les plus convertis, ne pourront occuper.
Les païens, de plus en plus nombreux dans les communautés chrétiennes, pourraient bien oublier la valeur du peuple historique de Dieu et commencer à se vanter en se drapant dans une sorte d'antisémitisme précurseur. C'est ce qui va arriver dans les premiers siècles. L'obstination des Juifs à rejeter la bonne nouvelle va conduire les non-Juifs à considérer que l'Église est le royaume annoncé par Jésus. Pourtant, l'évangile que Paul prêche n'est pas nouveau. Il n'est que l'accomplissement des promesses faites aux patriarches, à Moïse et aux prophètes. Alors, pourquoi les descendants d'Abraham refusent-ils ce message? Comment Dieu fera-t-il pour accomplir sa promesse faite à Abraham? En Genèse 22, 18, selon laquelle le monde entier sera béni par Israël. C'est à ces questions que répondent les chapitres 9 à 11.
Israël a été un peuple adopté de Dieu. C'est dans le lieu très saint du tabernacle, puis du temple qui se trouvait à l'époque dans le territoire de Juda, que résidait la gloire de Dieu. C'est aussi Israël seul qui pouvait revendiquer toutes les alliances, celle avec Noé, celle avec Abraham, celle avec Moïse, puis Josué, puis encore avec David, et même la nouvelle alliance qui avait déjà été annoncée par les prophètes. C'est d'Israël que sont issus les patriarches qui ont les premiers manifesté leur foi et à qui ont été données pour les promesses. C'est Israël qui a reçu en premier les promesses messianiques et de salut. C'est Israël qui devait être un peuple de prêtres pour le monde entier. C'est de lui que le Christ est né dans la chair, ce qui ne doit pas être considéré, comme sans importance, dira Calvin. En effet, Ce n'est pas pour rien que le Dieu de toute éternité a choisi de s'incarner dans une descendance juive. C'est une grande gloire.
Tous ces privilèges nationaux, les Juifs avaient toujours regardé les païens comme des vases de colère, formés pour la destruction. Et ils ne comprenaient pas pourquoi Dieu les supporterait avec patience, comme déjà Jonas avec Ninive. Et voilà que par sa grâce, dans sa miséricorde, Dieu choisit de sauver les païens, tous ceux qui se saisiront de son œuvre de salut par la foi. Pour un Juif, il y a de quoi ne plus rien comprendre. Dieu a-t-il renié Israël ?
Paul montre ainsi que ce n'est pas parce qu'on est israélite par la chair qu'on mérite d'être sauvé. On ne le mérite pas non plus par les œuvres, car Ésaü et Jacob n'étaient pas encore nés et n'avaient fait encore ni bien ni mal que Dieu aima Jacob et haït Ésaü qui était l'aîné. Pourtant, c'est à l'aîné que devait revenir la bénédiction. Mais, comme le montrera la suite de l'histoire d'Israël, Dieu se plaira à choisir souvent le petit, le moindre, celui que personne ne prend en compte pour conduire son peuple et pour faire alliance. L'histoire d'Israël montre ainsi que Dieu fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde, que ses choix ne se font pas sur les critères que nous, humains, nous utiliserions habituellement, naturellement.
Et aujourd'hui que le Messie est venu et que l'heure du salut est arrivée, les Juifs ne comprennent pas pourquoi Dieu choisit d'offrir ce salut par la grâce aux païens et pas seulement aux Juifs. Et cela les pousse à refuser la bonne nouvelle annoncée par Jésus et reprise par Paul. Heureusement, un reste subsistera par la foi et permettra qu'Israël accède un jour tout entier au salut, dans Romains 11, 26.
Et nous, vous me diriez, en quoi tout cela peut bien nous concerner ? Eh bien, ce chapitre, et plus probablement toute l'épître aux Romains en filigrane, évoque la souveraineté de Dieu. Dès le chapitre 1, Paul nous rappelle que Dieu est le Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé l'univers tout entier, qui contiendrait, selon ce que j'ai lu, 2 billions de galaxies. Alors, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que ça représente, 2 billions de galaxies, mais je crois que nous, qui avons déjà du mal à voir plus loin que le bout de notre nez, c'est difficile d'imaginer tout cela. Et dans cet infini, que sommes-nous ? Eh bien, nous sommes un simple grain de sable.
Oui, mais voilà. À l'image de la grenouille et du bœuf de la fable de La Fontaine, le minuscule grain de sable que nous sommes a la tendance irrépressible de se prendre pour le centre du monde. Nous avons beau ne pas y faire, tout ce que nous mettons en œuvre est le résultat du fait que tout tourne autour de nous. Les messages que nous entendons autour de nous confortent dans cette affirmation « Je suis la personne qui compte le plus au monde et je dois parvenir à l'acceptation de moi, de soi, l'amour de soi, l'expression de soi, la réalisation de soi, l'affirmation de soi. » Enfin, tout va de soi. C'est de moi, pardon. Et plus je m'efforce d'être la personne qui compte le plus au monde, plus le minuscule grain de sable que je suis enfle et se prend pour la plus grande plage du monde à lui tout seul.
Et plus l'homme enfle ainsi, plus il cultive le jugement et le mépris, de telle sorte qu'il ne se considère de loin comme étant le meilleur que les autres, ou même des fois que Dieu lui-même. L'Épître aux Romains nous le montre de plusieurs manières. Par exemple, en Romains 1, 22, Paul nous dit « Les hommes se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. » Il poursuit en Romains 2, verset 1, « Mais qui es-tu, toi qui juges ?» Nous avons si facilement tendance à juger les autres d'après leurs péchés, par exemple, mais nous ne sommes pas meilleurs qu'eux, nous dira l'apôtre Paul. Il continue encore en Romains 6, verset 15, « Quoi donc ? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce ? Certains chrétiens s'estiment meilleurs que d'autres. Comme ils ont été sauvés, ils peuvent continuer à pécher. Plus besoin de changer, ce n'est pas grave. De toute façon, Dieu leur fera grâce. Et cette conception de la grâce de Dieu méprise quelque part l'œuvre du Christ à la croix. Mais Paul continue encore. en Romains 11, je vous laisserai le relire tranquillement à la maison, pour revenir justement à notre propos du début, on voit que les païens pouvaient avoir tendance à se vanter eux aussi, d'avoir eux entendu et accepté le salut de Dieu à la différence des juifs. Mais Paul leur rappelle que, en fait, ils n'ont fait qu'être greffés sur l'olivier sauvage qu'est Israël, et que c'est en vertu uniquement de cela et du fait que des branches ont été coupées qu'ils peuvent être sauvés. Les païens sont appelés à demeurer dans la bonté de Dieu et en toute humilité, parce que Dieu pourrait aussi décider, et bien finalement, de les retrancher aussi. Et puis, il y a le chapitre 14 de l'Épître aux Romains qui, à lui tout seul, est un chapitre qui nous parle de jugement et de mépris, qui nous parle de frères et sœurs qui vivent ensemble en communauté et qui se jugent et qui se méprisent parce que les uns mangent selon certains jours de la semaine, d'autres mangent tel ou tel aliment, etc., etc.
L'orgueil de l'homme atteint son paroxysme dans le chapitre 9 où Paul, au verset 20, interpelle. « Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu ?» Ici, il est question des Juifs qui contestent à Dieu les choix de son élection. Mais cette question que Paul pose aux Juifs, elle se pose aussi à nous, à moi, 2000 ans après. Car qui suis-je pour entrer en contestation avec Dieu ? Qui suis-je pour dire à Dieu que sa volonté n'est pas la meilleure, que ses choix ne sont décidément pas très avisés et qu'il est injuste avec moi ? Pourtant, n'avons-nous pas cette fâcheuse tendance à mettre Dieu sur le banc des accusés et lui demander des comptes ? Pourquoi bénis-tu cette personne-là et pas moi ? Pourquoi permets-tu que j'ai ce problème de santé ? Pourquoi les non-croyants peuvent faire tout ce qu'ils veulent et en plus ils réussissent mieux que moi ? Le procureur que nous sommes ne cesse jamais de tarir ainsi de questions et d'accusations envers le coupable. Dieu.
Alors, Paul nous pose cette question, avec cette image célèbre qu'il emprunte au livre de Jérémie. Le potier n'est-il pas maître de l'argile ? Qui sommes-nous pour oser contester avec Dieu et le mettre sur le banc des accusés, en lui demandant des comptes ? Le psaume 8 nous rappelle « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » En Jacques 4, 14, il nous est dit « Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Il nous faut donc dégonfler avant d'exploser. Il nous faut réaliser que nous sommes non le potier, mais l'argile.
Il nous faut réaliser que Jésus n'est pas venu s'incarner sur terre pour soigner notre hippopotame moi. Arrogant, égoïste, mais pour le clouer à la croix. Non seulement Jésus a été cloué sur la croix pour moi, mais j'ai été crucifié avec lui, dira Paul en Romains 6, 6. Dieu désapprouve notre moi, absolument intolérant envers lui. Il a liquidé à la croix, alors qu'aujourd'hui encore, nous l'astiquons, nous le pichonnons. Larry Crabb, écrit, c'est un théologien, a écrit une grande partie de notre christianisme évangélique est centrée sur l'homme. Nous avons besoin de revenir à une position chrétienne, centrée sur Dieu, qui enseigne ce que Dieu dit de faire, que vous en ayez envie ou pas. J'ai parfois envie de manquer au travail, mais j'ai réfléchi sérieusement et je sais que je dois aller travailler. Qu'est-ce qui doit contrôler mon comportement ? Ce que je ressens ou ce que je pense ? J'ai souvent envie de pécher et je sais cependant que ce qui est vrai, que Dieu m'a racheté et que je lui appartiens, qu'il est mon Seigneur. Qu'est-ce qui doit me contrôler ? Ce que je ressens ou ce que je sais être vrai ?
Lorsque nous réalisons dans notre vie que nous nous trompons et que nous prenons pour le potier et pas pour l'argile, lorsque nous réalisons notre arrogance et notre égocentrisme, nous rentrons en conflit avec nous-mêmes. C'est Romains 7. Une partie de nous, le vieil homme, qui est pourtant déjà mort, animé par la chair, veut continuer à nous contrôler. Alors que le nouvel homme que nous sommes en Christ, eh bien, animé du Saint-Esprit, désire lui prendre le contrôle. Et une erreur courante est de croire que nous allons arriver par nous-mêmes à éradiquer ce moi charnel. Mais nous en sommes incapables. Et bien des expériences que nous avons probablement dû déjà faire nous ont signifié notre défaite claire. Mais Jésus, lui, est vainqueur. Il a cloué ce moi à la croix. Désormais, c'est Christ qui vit en moi. Le théologien Tozer écrira « Le chrétien victorieux n'est pas celui qui se vante ou se méprise. Il ne s'intéresse plus à lui-même, mais à Christ. Il n'est plus préoccupé par ce qu'il est ou n'est pas. Il croit qu'il a été crucifié en Christ et il ne désire ni exalter ni déprécier l'homme qu'il est devenu. »
Nous sommes donc appelés à nous abandonner entre les mains de Dieu par la foi, comme l'argile s'abandonne entre les mains du potier et se laisse faire par lui. Le lâcher prise, voilà un terme très à la mode, mais qui n'a jamais cessé d'être d'actualité dans la vie avec Dieu. C'est au pied de cette croix où Jésus est mort pour nous et avec nous que nous pourrons nous abandonner entre ses mains. Les résistances à se laisser faire sont nombreuses. Naturellement, nous avons du mal à faire confiance, à laisser quelqu'un d'autre s'occuper de nous. Mais avec Dieu, avec Jésus, il y a la plus grande des raisons qui peuvent nous pousser à nous laisser faire par lui. Dieu nous aime. Il t'aime. Il m'aime. Et pas qu'un peu, mais d'un amour infini, au point qu'il est mort sur la croix pour moi. Et chaque fois, si je suis attentif, je peux voir qu'il me manifeste encore son amour par tout un tas de choses, des petits signes ou parfois de grands signes. Alors autant notre crainte est de se laisser faire par un humain est très souvent légitime, avec Dieu, cette crainte peut s'évanouir. Car l'amour parfait bannit la crainte, dira ainsi l'apôtre Jean en 1 Jean 4, 18.
Nous étions des vases d'un usage vil, mais Dieu désire nous transformer en vases d'honneur. Seulement, nous sommes une pâte dure. Parfois, Dieu doit la briser pour recommencer. Parfois, il les fait petit à petit, par petites touches. Et parfois, il le fait d'une façon plus nette, en nous envoyant, par exemple, des épreuves un peu plus difficiles. Cela peut paraître dur et cruel de la part du potier. Mais en réalité, chaque geste de sa part pour nous façonner à son image est rempli d'amour. Ce n'est que lorsque nous acceptons de nous laisser faire par le potier et d'être guidés par le Saint-Esprit que nous pouvons réellement devenir celui ou celle que Dieu veut que nous soyons. Se laisser faire par Dieu ne signifie pas que nous perdons tout contrôle dans notre vie. Nous restons acteurs de notre vie, mais en ayant conscience que nous sommes dépendants de lui. Se laisser faire par Dieu, comme l'argile avec le potier, c'est marcher par l'Esprit. Ce n'est pas courir par l'Esprit en multipliant les activités et qui nous ferait croire que nous deviendrions spirituels. Non, Jésus nous invite à une marche reposante, en tandem avec lui, et conduit par l'Esprit Saint. Alors, ce matin, le potier t'appelle de sa douce voix. Viens et laisse-toi faire.